VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 9 août 2023. Un ancien chef rebelle Touareg, Rissa Hagboula, lance un mouvement de résistance au coup d'État au Niger. Au Kenya, coup d'envoi des discussions entre le gouvernement et l'opposition après de violentes manifestations contre la vie chère. En Éthiopie, l'armée repousse des miliciens dans deux grandes villes de la région d'Amara. Colère et frustration au Rwanda après la décision de la CPI de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, financier présumé du génocide.
Nous avons été extrêmement déçus. La décision qui a été prise n'est pas pratiquement à la hauteur d'un jugement et des résultats que nous attendions du cas de Kabuga.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, un joueur de Floride remporte 1,58 milliard de dollars à la loterie Mega Million. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Niger, un ancien chef rebelle Touareg a lancé un mouvement d'opposition à la junte qui a pris le pouvoir le 26 juillet. Au plan régional, la CEDEAO a déclaré donner la priorité à la diplomatie tout en maintenant sa menace d'intervention armée pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Nathalie Barge.
Rissa Hagboula affirme que le Conseil de la Résistance pour la République vise à rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Le CRR soutient la CEDEAO et tout autre acteur international cherchant à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger selon le comité dispositions nécessaires en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de l'organisation ouest-africaine, a assuré que la diplomatie est la meilleure voie à suivre, sans exclure une intervention militaire. C'est la première prise de position de Tinubu depuis l'expiration dimanche de l'ultimatum d'une semaine lancée aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey. Hier, le Mali et le Burkina Faso ont adressé des lettres conjointes à l'ONU et à l'Union africaine, les appelant à empêcher toute intervention militaire contre le Niger, dont l'ampleur des conséquences sécuritaires et humanitaires serait imprévisible. Une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU n'a pas pu se rendre à Niamey mardi, sa mission ayant été annulée par les militaires. Les États-Unis ont également tenté le dialogue. « Nous avons toujours de l'espoir, mais nous sommes aussi très réalistes », a déclaré hier le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Lundi, la numéro 2 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, était à Niamey pour rencontrer les auteurs du coup d'État, mais elle n'a pas pu voir le général Abdourahmane Tiani ni le président Mohamed Bazoum en résidence surveillée. Lundi soir, la junte a nommé un premier ministre civil, Ali Mahaman Lamine Zeyn. Un sommet de la CEDEAO doit se tenir demain à Abuja.
La junte nigérienne accuse la France de vouloir déstabiliser le pays. Niamey a accusé la France d'avoir notamment violé la fermeture de l'espace aérien nigérien et libéré des terroristes, ce qui constitue selon lui un véritable plan de déstabilisation du pays. On écoute Amadou Abdourahmane, l'un des porte-parole militaires.
Ce jour, 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Burkou-Burkou, 30 km du site orifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières.
Les autorités françaises ont aussitôt fermement démenti les accusations du régime militaire du Niger. Le vol effectué ce matin a été autorisé et coordonné avec l'armée nigérienne, a indiqué une source gouvernementale française, et aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises selon Paris. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum au sujet de la visite à Niamey de la diplomate Victoria Nuland, a indiqué aujourd'hui le département d'État. Le chef de la diplomatie américaine a transmis le soutien continu des États-Unis à une solution qui rétablisse le Niger dans la démocratie et l'ordre constitutionnel, a fait savoir le département d'État à propos de l'appel de mardi. Anthony Blinken a également souligné que la sûreté et la sécurité du président Bazoum et de sa famille sont primordiales. Au Kenya, gouvernement et opposition ont lancé des discussions visant à sortir de l'impasse politique. Depuis mars, plusieurs manifestations contre la vie chère ont secoué le pays, faisant plusieurs morts. Alexandrine Ologon nous en dit plus.
Les camps des deux rivaux, Raila Odinga et William Ruto, ont entamé vers 13h, heure locale, une première séance de négociation. Le contour des discussions reste flou, aucun calendrier n'a été fixé et même le contenu des discussions est source de divergences. La coalition Azimio veut débattre de la hausse du coût de la vie, mais le chef de délégation gouvernementale, Kimani Ichung'wa, a exclu toute discussion sur la situation économique. Depuis mars, l'opposition a organisé 10 journées de manifestations contre le gouvernement, l'accusant d'aggraver les difficultés des Kenyans. Ces manifs ont été parfois marquées par des pillages et des affrontements avec la police. Au moins 20 personnes ont été tuées durant ces rassemblements selon les autorités. L'opposant Raila Odinga demande aussi un audit des résultats de la présidentielle. Les appels au dialogue se sont multipliés de la part du clergé et des principaux médias kenyans et des Nations Unies.
L'armée éthiopienne a repris du terrain ce mercredi face à des milices locales de la région de l'Amara, dans le nord du pays, en proie à des affrontements meurtriers depuis plusieurs jours. Le point avec Mohamed Mfa.
Des habitants ont déclaré que des combattants de Fano, une milice Amara, ont été repoussés à Gondar et Lalibela, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses anciennes églises creusées dans le roc. Selon un habitant de Gondar, l'armée fédérale éthiopienne a pris le contrôle de la plupart des quartiers de la ville après de violents combats ces derniers jours. Des chars et des véhicules blindés sont toujours dans la ville, a-t-il poursuivi, affirmant que les Fano ont été repoussés dans un seul quartier où des combats sont toujours en cours. À Lalibela, les Fano ont quitté la ville et sont dans la forêt environnante, a indiqué un autre habitant. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais deux médecins ont fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés dans les hôpitaux où ils travaillent. Dans un communiqué mardi soir, le gouvernement de la province de l'Amara a affirmé qu'une paix relative est revenue lorsque l'armée a pris des actions appropriées contre des groupes extrémistes.
Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré aujourd'hui à une foule de plus de 150 000 partisans à Harare qu'ils étaient perdus s'ils ne votaient pas pour son parti à la présidentielle et aux législatives dans 2 semaines. Monsieur Mnangagwa, âgé de 80 ans, brigue un second mandat à la tête de l'État et affrontera le 23 août un autre candidat à la présidentielle, Nelson Kamisa, un avocat et pasteur de 45 ans qui dirige le plus grand parti d'opposition du pays, la coalition des citoyens pour le changement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU a annoncé un accord avec Damas pour reprendre son assistance humanitaire aux zones rebelles du nord de la Syrie depuis la Turquie, provoquant des craintes d'ONG qui voulait garder le régime syrien à l'écart de ce processus. En vertu d'un mécanisme mis en place en 2014, Bab al-Awa constituait le dernier poste frontière avec la Turquie par lequel l'ONU pouvait acheminer nourriture, eau et médicaments sans autorisation préalable du régime syrien. Mais le 11 juillet, après un veto de la Russie, alliée de la Syrie au Conseil de sécurité, le mécanisme qui permettait à l'ONU de se dispenser de l'autorisation de Damas n'a pas été renouvelé. Ici aux États-Unis, un ticket de loterie a rapporté un pactole d'1,58 milliard de dollars à son acheteur en Floride. L'annonce a été faite mardi par la loterie américaine Mega Millions. Les précisions de John Lydon.
Cette somme dépasse le précédent record pour cette loterie, soit un jackpot de 1,537 milliards de dollars décroché en 2018 selon la société. Après 31 tirages sans gagnant, un heureux détenteur de tickets en Floride va célébrer l'été avec un jackpot record estimé à 1,58 milliard, a écrit la loterie américaine dans un communiqué. Selon la chaîne ABC News, ce montant, s'il est confirmé, sera le troisième plus gros lot de l'histoire des loteries aux États-Unis. En novembre 2022, Un joueur en Californie avait décroché un peu plus de 2 milliards de dollars à la loterie Powerball. Le gagnant, qui n'a pas été identifié, peut choisir d'encaisser 860 millions de dollars d'un coup ou recevoir la totalité des gains en paiement annuel étalé sur 30 ans. Le ticket pour cette loterie, organisée dans la quasi-totalité des États américains, coûte 2 dollars. La chance de remporter le jackpot du Mega Millions est d'une sur 303 millions de tickets vendus.
Et l'Arabie Saoudite a rouvert son ambassade en Iran après plus de 7 ans de rupture entre les deux puissances rivales, a annoncé l'agence officielle iranienne INRA. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
L'Africa Finance Corporation annonce un investissement d'environ 55 millions de dollars américains dans le champ pétrolifère de Sangomar. Selon Financial Afrique, il s'agit du premier projet offshore du Sénégal développé par l'entreprise australienne Woodside. L'investissement permettra de stimuler l'industrie pétrolière et gazière émergente du Sénégal. Le groupe Emirati Terminals Holding est devenu le nouvel exploitant de l'aéroport international de Malabo en Guinée équatoriale à la suite d'un accord signé le 5 août dernier entre le gouvernement et le groupe Emirati. Selon l'agence Ecofin, Terminals Holding a été préféré après un appel d'offres à 12 concurrents, dont Ethiopian Airlines. L'autorité norvégienne de la protection des données a imposé mardi une amende au géant technologique américain Meta. La maison mère de Facebook est accusée d'avoir diffusé des publicités ciblées en exploitant les données des utilisateurs de ses plateformes Facebook et Instagram. Meta devra payer l'équivalent de 88 500 euros dès le 14 août.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Les quarts de finale du mondial féminin, vendredi et samedi.
À une dizaine de jours de la finale de Sydney, la première Coupe du monde féminine organisée dans l'hémisphère sud a déjà marqué l'histoire de l'épreuve avec un record d'affluence battu et les éliminations inattendues de plusieurs nations phares. La surprise colombienne contre les championnes d'Europe anglaises, l'Australie de Sam Kerr, contre la France d'Hervé Renard, le Japon qui rêve d'un deuxième titre et des absences de marque, ces quarts s'annoncent passionnants. Pour la première fois à 9 éditions, les Américaines ne sont pas au rendez-vous du top 8, victimes d'une séance de tirs au but fatale contre la Suède en 8e.
Football masculin, le gardien d'Arsenal Matt Turner signe à Nottingham Forest.
L'Américain Matt Turner a signé un contrat de 4 ans avec le club de Nottingham Forest, a annoncé ce mercredi le club de Premier League. Le montant du transfert pour le portier de 29 ans n'a pas été indiqué, mais selon les médias britanniques, il atteindrait 12 millions d'euros. Le gardien de Brentford, David Raya, s'apprête à rejoindre Arsenal et les chances de Turner de jouer régulièrement avec le club londonien se retrouvaient en conséquence réduites.
La Grèce sous le choc après une nouvelle victime du hooliganisme.
La mort d'un jeune supporter grec lors de violents incidents entre les ultras des équipes de Dynamo Zagreb et de l'AEK Athènes a laissé sous le choc ce mercredi la Grèce. La police s'est montrée du doigt pour ce manque de surveillance des hooligans croates. Mikalis Katsouris, 29 ans, supporter de l'AEK, est mort après avoir été poignardé au bras gauche au cours d'affrontements lundi soir à l'extérieur du stade du club grec à Nea Philadelphia dans la banlieue d'Athènes. Au moins 8 personnes ont été blessées. Ces incidents sont survenus la veille du match prévu du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. L'enquête pour identifier l'auteur de l'attaque meurtrière est en cours alors que l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. La police a arrêté 104 personnes, dont 94 Croates, qui ont commencé à comparaître ce mercredi devant le parquet d'Athènes, a indiqué le porte-parole de la police grecque.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les rescapés du génocide au Rwanda se disent extrêmement déçus par la décision du tribunal onusien de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, financier présumé du génocide. Ils craignent que cette décision ne compromette les efforts de lutte contre l'impunité. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manishimwe.
Après l'annonce de la Chambre d'appel du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, un Rwandais soupçonné d'avoir financé le génocide des Tutsis en 1994, les réactions d'indignation se multiplient. Depuis la France, où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide estiment que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies.
Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les Nations Unies ne montrent pas d'empathie pour nos histoires, ne montrent pas d'urgence à la justice. Félicien Kabuga a été en cavale pendant près de 25 ans, plus de 25 ans. Il aurait été intéressant de savoir qui l'a aidé et comment, parce qu'il est certain que ces réseaux-là d'appui à une telle cavale étaient extrêmement puissants.
Pour le président de Ibuka, la principale association des rescapés du génocide des Tutsis, la déception est totale.
Nous avons été extrêmement déçus. La décision qui a été prise n'est pas pratiquement à la hauteur d'un jugement et des résultats que nous attendions du cas de Kabuga. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que pratiquement le déni de la justice.
Ce sentiment de déception est partagé par cet activiste des droits des rescapés du génocide qui craint que la décision du tribunal onusien ne favorise plutôt le négationnisme du génocide.
Dès lors que Félicien Kabuga a été arrêté, par exemple, on a vu des textes, des vidéos pullulées sur Internet pour expliquer que le Rwanda était un pays agricole et que les machettes servaient à l'agriculture et que Félicien Kabuga n'avait absolument jamais acheté ces machettes pour organiser le génocide. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice.
Maître Faustin Murangwa, ancien avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie, déplore pour sa part que la Cour n'a pas été suffisamment éclairée pour bien interpréter le rapport des médecins sur l'inaptitude de Kabuga.
Le rapport en soi n'est pas clair. Le procureur aurait dû demander d'abord un rapport clair. Il faut comprendre que les juges ne sont pas des médecins, non plus les procureurs ou les avocats. Interpréter le rapport d'un médecin, je pense que ça demande un autre médecin. Et je pense que c'est ça qui a manqué. La Cour n'était pas éclairée pour prendre une décision quelconque.
Félicien Kabuga, âgé aujourd'hui de 90 ans, était présenté comme le grand financier du génocide des Tutsis au Rwanda et était le plus recherché des suspects génocidaires par l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique.
VOA Kigali. Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24 heures sur 24.
Après 3 ans d'absence due au Covid, la foire Made in Togo fait son retour à Lomé, la capitale togolaise. Cette fête foraine qui réunit les entrepreneurs locaux du pays vise à promouvoir la consommation locale comme un facteur important pour le développement économique et durable. Reportage sur place de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Kani Kodjo est phytotechnicien de formation. Depuis quelques années, il s'est lancé dans la production de vin à base de fruits. Grand abonné de la foire Made in Togo, il est venu présenter de nouveaux produits. Du vin blanc à base d'ananas et d'orange et du vin rouge concocté grâce à une combinaison d'artémisia et du quinqueliba. Pour le jeune entrepreneur, cette foire est une occasion de montrer le savoir-faire togolais.
Nous avons décidé de continuer pas faire confiance à la foire Made in Togo parce que déjà le titre de la foire, ça devait être une foire annuelle pour chaque entrepreneur togolais. C'est notre foire à nous. Donc nous devons nous approprier de cette foire. Donc aussi que ça fait longtemps que la foire s'est arrêtée, nous voulons renouer avec nos clients habituels et pour qu'ensemble nous puissions fêter le Made in Togo.
Divers produits issus de tous les secteurs d'activité sont exposés ici. Et pour les visiteurs, tout aussi curieux et admiratifs, cette foire leur offre l'opportunité d'apprécier et de faire des découvertes. C'est le cas pour Abba Lotandao qui réside à Lomé.
Il faut dire qu'il y a de tout ici et pour satisfaire nos besoins. Les produits made in Togo sont concurrentiels actuellement parce que j'ai vu que l'emballage est entretenu. Les gens font beaucoup d'efforts pour soigner l'emballage et la présentation.
Ce rendez-vous commercial vise non seulement à promouvoir les produits d'origine togolaise, mais surtout à stimuler leur consommation. Prince Adjato est membre du comité d'organisation.
Les outils de la Foire Made in Togo, c'est de promouvoir les produits de chez nous, les produits locaux, les produits fabriqués, produits ou transformés sur le territoire national. Donc c'est une foire qui a pour objectif de faire éclore ces structures, ces jeunes entrepreneurs qui font du bon, enfin, ce qu'il faut pour permettre à l'économie nationale aussi de rebondir à l'échiquier international.
La Foire Made in Togo se veut donc un espace dédié pour créer des liens entre les marchés, afin de favoriser une forte croissance des échanges commerciaux. Aména Signon pour VOA Afrique. Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Ici aux États-Unis, les électeurs de l'Ohio ont rejeté mardi une réforme constitutionnelle voulue par le camp conservateur et qui aurait compliqué l'accès à l'avortement dans cet État du Nord américain. La question de l'avortement va-t-elle s'imposer dans la campagne pour la présidentielle de 2024? Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Tout à fait. Je crois que c'est pas une question est-ce que l'avortement doit être légal ou pas légal. C'est une question de le droit de l'avortement. Il y a beaucoup de femmes aux États-Unis qui n'ont pas l'intention d'avoir l'avortement, mais quand même, elles désirent le droit de choisir d'avoir un avortement. Et je suis d'accord avec eux.
L'Ohio a pourtant voté pour Donald Trump en 2016.
J'ai l'impression que Trump reste populaire dans la partie républicaine. Mais quand même, je crois que les indépendants, les votes, les gens qui votent ni démocrates ni républicains, mais changent chaque fois, et surtout des femmes qui habitent dans les banlieues, je crois que ces gens commencent à être fatigués de Trump. Et à mon avis, ils vont voter contre Trump dans la prochaine élection.
On a eu l'échec de référendum anti-avortement dans les États très conservateurs comme le Kentucky et le Kansas. Est-ce que ça montre que les leaders républicains ne sont plus en phase avec l'électorat républicain sur cette question de l'avortement?
Ah, pas nécessairement, parce qu'il y a bien sûr l'Église catholique qui était toujours contre l'avortement. Mais un autre groupe aux États-Unis qui est important, c'est l'église baptiste. Je crois qu'elle est la plus grande église chrétienne aux États-Unis. Je crois que l'église baptiste représente quelque chose comme 25% des chrétiens aux États-Unis. Donc ce sont les catholiques et les baptistes qui votent contre l'avortement. Et c'est ces gens qui contrôlent maintenant la partie républicaine.
Selon des enquêtes d'opinion, les Américains veulent majoritairement protéger l'accès à l'avortement. Est-ce pour dire qu'un candidat à la prochaine présidentielle anti-avortement risque de perdre la Maison-Blanche?
Je crois que c'est vrai. Oui, parce que, comme vous dites, la majorité des Américains ne sont pas pour l'avortement, mais ils sont pour le droit de choisir un avortement. Et ça, c'est la majorité. Donc, tant que les républicains sont contre l'avortement dans le discours et tout ça, ils risquent de perdre la prochaine élection présidentielle en 2024. Les démocrates ont pris contrôle du Sénat et ils ont beaucoup réduit la majorité républicaine dans la Chambre. Et la question d'avortement avait joué un grand rôle.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, chargé de l'Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Des événements géopolitiques comme la guerre, la chute d'un gouvernement ou l'effondrement de l'Union soviétique peuvent laisser des personnes apatrides. Aux États-Unis, plus de 200 000 personnes vivent avec le statut d'apatride. Aline Barros de la VOA s'est penchée sur cette question aux États-Unis. Le récit avec Dilly Dico.
Karina Ambartsoumian-Clau est une apatride vivant aux États-Unis.
Je suis née dans un pays qui n'existe plus.
Elle fait partie des quelques 218 000 personnes qui, aux États-Unis, n'ont la nationalité d'aucun pays. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé qu'il mettait en place de nouvelles procédures pour clarifier la signification du terme « apatride » dans le cadre de l'immigration.
Ils ont fait un grand pas en avant en reconnaissant les gens comme nous dans ce pays.
Karina est née à Odessa, en Ukraine, en 1988.
De mes parents, j'ai reçu deux héritages. Je suis à moitié arménienne et à moitié ukrainienne. Et ça a été un problème. Mon père a été pris pour cible en raison de son appartenance ethnique à Odessa, en Ukraine. Ma mère a fait une fausse couche dans la ville de mon père parce qu'elle a été battue dans la rue.
Sa famille s'est réfugiée au Canada, puis aux États-Unis, en 1996, où l'asile leur a été refusé. Mais entre-temps, l'Union soviétique s'est effondrée en 1991 et l'Ukraine est devenue un pays indépendant.
Nous sommes allés à l'ambassade d'Ukraine pour obtenir nos passeports et nos documents de voyage pour rentrer. C'est alors qu'ils nous ont dit « Nous ne vous reconnaissons pas comme étant des nôtres ».
Aux États-Unis, les apatrides n'ont pas de documents légaux ou d'identification pour montrer qui ils sont ou d'où ils viennent. Bien que certains, comme Karina, ont un certificat de naissance invalide.
La seule chose que j'avais à l'époque pour prouver mon identité était un certificat de naissance d'un pays qui n'existe plus. Mon acte de naissance soviétique avec une copie d'une traduction notariée. C'est tout ce que j'avais.
D'autres n'ont rien. Et à cause de cela, ils ont du mal à trouver un emploi ou même un logement. Margaret Stock est avocate spécialisée en droit de l'immigration.
Ils sont donc laissés dans l'incertitude. Mais physiquement, à l'intérieur des États-Unis, il n'est pas logique que nous n'ayons pas de solution à ce problème.
L'annonce du ministère américain de la Sécurité intérieure promet de donner des exemples et des preuves pouvant être utilisées par les officiers de citoyenneté et d'immigration pour aider les apatrides à obtenir des documents comme une carte verte américaine. À nouveau, Margaret Stock.
Les apatrides se heurtent à un problème de taille. Ils ne peuvent tout simplement pas prouver qu'ils ont droit à une carte verte parce qu'ils ne peuvent pas obtenir les documents nécessaires de leur pays d'origine.
Mais les apatrides ne peuvent pas non plus être expulsés parce qu'ils n'ont pas de pays où retourner. En plus, aucune loi internationale n'exige que les gens aient la citoyenneté d'un pays en particulier. Certains pays autorisent la citoyenneté lorsqu'on y est né. D'autres pays ne le font tout simplement pas.
En fin de compte, il est très très facile pour les gens de se retrouver sans pays.
On ne sait pas encore si la nouvelle politique américaine permettra à certains apatrides d'obtenir une carte d'identité ou une autorisation pour travailler légalement dans ce pays. Karina Ambartsoumian-Clau espère que les nouvelles directives aideront enfin les personnes qui, comme elle, sont dans l'incertitude.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique super rapide. Jobless. Jobless. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique.